La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau aujourd'hui avec Mariana Braza, qui est ingénieure et directrice de recherche à l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse et qui effectue un travail tout à fait impressionnant et important. Avec ses collègues chercheurs et ingénieurs de plusieurs laboratoires français et étrangers, elle étudie en grand détail le fonctionnement des ailes d'oiseaux en vol, en particulier les grands rapaces. Le but de ses recherches est de s'inspirer de la complexité naturelle du vol des oiseaux et des détails qui leur permettent une très grande efficacité pour l'appliquer à la technologie des ailes d'avion. Elle nous a expliqué la semaine dernière comment la forme des ailes d'oiseaux et leur constitution avec des plumes et plumettes qui réagissent aux conditions extérieures leur permet de faire moins de bruit et de dépenser moins d'énergie. Alors Mariana, pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui comment on peut réellement appliquer cela à nos avions? Est-ce que l'idée est de garder des ailes fixes, mais avec des extrémités mobiles, de façon intelligente, comme celle des oiseaux?
Oui, l'idée techniquement, c'est de, ne pas actionner toutes les parties de l'aile de l'avion. Si vous observez l'aile de l'oiseau, des plumes et plumettes stratégiques, on va dire, sont situées plutôt vers l'extrémité arrière de l'aile. Je ne veux pas dire le bout, juste le bout de l'aile, mais le long de toute l'aile. Si vous voyez l'aile de l'oiseau, le long de toute l'aile vers son extrémité, il y a des plumes et des plumettes savamment vibrantes et déformées. Donc, nous avons étudié des prototypes d'ailes d'avion qui sont similaires à des ailes d'avion, par exemple, du A320, pour ne citer qu'un exemple. Nous avons donc adapté un certain nombre optimal de ces actionneurs électroactués tout le long donc de l'extrémité de l'avion et nous avons étudié par des approches théoriques puis par des approches de simulation numérique très très détaillées et par des expériences fines et bien ciblées, utilisant des méthodes de métrologie très modernes, l'influence et l'optimisation de ces déformations et de ces vibrations qui doivent être donc actionnées le long de cette surface vers l'extrémité de l'avion.
Et donc, ça veut dire que les lamelles ajoutées pour simuler les plumettes d'oiseaux sont conçues pour réagir aux variations de la pression extérieure en vol, c'est bien ça ?
Bien sûr, la question est très à propos. Les surfaces actives en question reçoivent les pressions aérodynamiques et elles sont au préalable étudiées pour détruire des tourbillons turbulents néfastes et augmenter l'effet des tourbillons turbulents bénéfiques. À savoir, il y a une classe des tourbillons qui entoure cette région de l'aile qui vont avoir un effet bénéfique pour augmenter par exemple, la circulation de l'air autour de l'aile, notamment autour de cette partie arrière. Donc, ces tourbillons-là, il ne faut pas les détruire, il faut les favoriser, il faut les amplifier et ainsi, on peut augmenter la portance. Par ailleurs, il y a des tourbillons qui font un certain effet de épaississement du fluide qui turbulent qui entoure la partie arrière de l'aile et son sillage. Et il faut savoir que ce qui est important, ce n'est pas la forme nominale de l'aile de l'avion, mais il faut toujours imaginer cette forme-là entourée de ces tourbillons turbulents. Donc la forme que, entre guillemets, capte ou voit le vent qui va donc attaquer, entre guillemets, l'aile de l'avion en son mouvement, ce n'est pas du tout la forme nominale, mais c'est la forme effective qui va être la forme nominale entourée de toutes ces turbulences. Donc, en éclatant des tourbillons néfastes, en les rendant un amas de tourbillons bien plus petits et moins forts, nous pouvons diminuer cette forme épaisse et donc on réduit d'emblée la résistance au vent. On a compris en fait que l'oiseau ne fait autre chose que amincir cette zone turbulente qui entoure son aile, notamment aussi son sillage.
Si je comprends bien, cette manière d'analyser spécialement l'effet des plumettes au bord des ailes des oiseaux permet une application plus facile aux ailes d'avion. C'est ça qui est nouveau?
Ce qui a été très important dans nos études par rapport à d'autres études faites par ailleurs, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'agir dès la région amont de l'aile, qui s'appelle région du bord d'attaque. D'ailleurs, l'oiseau a tout cet arsenal des plumes en arrière. Mmh. Il a un duvet pour l'amont. Il y a aussi le alula qui a une plume carrément en amont qu'il sort quand il veut atterrir. Et ça, c'est similaire au dispositif qu'a l'avion à la fin de l'atterrissage, où il y a une partie devant qui cambre pour augmenter la cambrure. Mais le plus grand arsenal complexe des plumes et des plumettes de l'oiseau est situé en arrière. Et nous avons démontré par nos études qu'en agissant d'une manière optimale sur cette partie arrière, nous avons des effets très importants de rétroaction le long de toute la distribution de pression sur la voilure jusqu'au bord d'attaque.
C'est extraordinaire en fait quand on pense à la complexité de la nature, parce que c'est les ailes d'oiseaux, c'est la nature qui a évolué de cette manière-là. Je voudrais poser une question de délai. Vous en êtes où et est-ce que ça peut être appliqué à des vrais avions, des avions de civils, des avions de ligne dans quelques années, ou quelle est l'échelle de temps que vous imaginez avant que ce soit utilisable?
Oui, c'est encore une très bonne question. Merci Sylvie. Depuis tout l'ensemble de nos études, nous pouvons dire qu'il y a des concepts d'actionnement plus simples qui pourront être relativement facilement adaptés aux ailes existantes ou aux ailes dans un futur relativement proche. Par exemple, un mouvement optimal de la partie de l'extrémité arrière de l'aile qui s'appelle un bord de fuite, en rajoutant une petite zone qui peut être donc vibrante par des petits moteurs qui ne nécessitent pas un grand apport d'énergie. Et donc ça ne modifierait pas la forme existante de l'aile pour laquelle l'aile a été certifiée. Et donc, d'emblée, on peut essayer ce dispositif s'il obéit à ces optimalités que l'on a étudiées auparavant. Et on peut penser à ce que Airbus, à titre d'exemple, puisse être intéressé à mettre en œuvre un simple vol d'essai avec ce dispositif relativement simple. En fait, le dispositif que nous avons étudié est beaucoup plus complexe parce que, comme ça a été dit par Sylvie, il y a les pressions qui sont captées sur la voilure et il y a les actionnements qui sont électroactifs. J'insiste sur le mot électroactif et pas mécanique parce que l'action électroactive permet de répondre instantanément aux sollicitations de pression par un dispositif de contrôle qui va recevoir les pressions par des capteurs de pression. L'oiseau a des capteurs de pression de par son système nerveux, son système musculaire, mais nous, je veux dire l'avion, sur la surface de l'avion, de l'aile de l'avion, on peut disposer des capteurs de pression sensible et en fonction de ce que reçoit le capteur de pression qui traduit les sollicitations de l'air sur l'aile de l'avion et les forces, il peut dicter aux actionneurs comment ils vont vibrer et se déformer instantanément ou presque instantanément. Les systèmes que nous avons étudiés dans nos prototypes, dont les dimensions sont comparable ou proche à la vraie aile, par exemple, pour ne citer que la 320, où nous avons démontré que ces concepts peuvent s'appliquer et sont économes en énergie et ne rajoutent que très très peu de poids, ce qui est important par rapport au design des ailes d'avion du futur.
Merci beaucoup Mariana pour toutes ces explications. On attend, alors on sera intéressé à avoir des nouvelles sur l'évolution des recherches et des techniques. Merci beaucoup.
Merci Sylvie de cette aimable invitation et de cet entretien.